les différentes parties du parcours, notamment cette première partie très compliquée avec un enchaînement de côtes, de relances, qui sera d'ailleurs à l'avantage un peu plus des Français. Et puis cette deuxième partie très roulante où il faut emmener du gros braquet. Et là, eh bien, Geraint Thomas, le tenant du titre, aura certainement l'occasion de reprendre quelques écarts. C'est un beau match qui s'annonce entre Geraint Thomas, bien sûr grand favori aujourd'hui, et le reste des leaders. Ceux qui perdront trop de temps aujourd'hui seront directement distancés de la lutte pour le maillot jaune. Voilà, c'est un rendez-vous important, cette 13e étape à Pau aujourd'hui, sous la chaleur. Frédéric Brindel sur la route du Tour de France.
La météo Sud Radio.
Et nous voilà sur une belle journée de transition entre deux perturbations. Celle d'hier traîne encore un petit peu entre l'Aquitaine et le Nord-Est, mais elle se désagrège pour céder la place aux belles éclaircies de l'après-midi. Celle de demain va déjà maintenir un ciel très nuageux sur la Bretagne et le Cotentin, avec un petit peu de pluie. Mais plus au sud, le soleil conserve toujours l'avantage. Il dissipe les nuages dans le sud-ouest et il brille de façon estivale dans le sud-est. Une petite note habituelle pour les randonneurs. Attention au risque d'averses orageuses en fin d'après-midi sur les Pyrénées orientales, les Alpes du Sud et la Corse. Pour les températures, pas encore de grosse chaleur, 20 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 32 degrés ailleurs, et toujours ces 34 à 35 degrés vers la basse vallée du Rhône.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Un clin d'œil à la Grèce antique vous a permis de devenir ce qu'en langage moderne on appelle une huile. Une horloge à coucou vous a marqué bien avant qu'un grave problème de santé vous permette, une fois guéri, de remettre les pendules à l'heure. Vous publiez un livre dont l'héroïne est une sirène et dont l'adaptation au cinéma vous permettra sans doute d'aller au Festival des Cailles. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
J'ai pas pu m'empêcher ça.
Elle est bien.
Alors, vous publiez un roman, Une sirène à Paris, chez Albin Michel. On va en parler. C'est une fable pleine de poésie. On en parlera tout à l'heure. Mais on va parler surtout de votre carrière, car vous avez plusieurs métiers, la chanson, l'écriture, le cinéma. Donc, des tas de choses à dire à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, Mathias Malzieu, c'est le 16 octobre 1993.
Oui, c'est le premier concert de Dionysos.
Bravo. Et c'est où ?
C'est sur la terrasse du Café de la Paix, qui est un petit bar qui est sur la rue qui est pile en face de la gare.
Voilà, à Valence.
Le truc qui n'a absolument aucun caractère.
Et comment vous aviez trouvé ce café, Mathias Malzieu ?
Oh, bah c'était, j'avais vu qu'il y avait des concerts de rock qui s'y jouaient sur les terrasses le samedi après-midi. Et on était venus avec notre petite cassette où on avait enregistré une chanson ou deux, je crois, à l'époque. Et on avait demandé à jouer gratuitement si on pouvait jouer en première partie d'un autre groupe, vu qu'on n'avait aucune référence. Et ça a été un moment important parce que c'était un vrai rendez-vous d'adrénaline. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument que des copains. Hein. Il y avait quelques copains et des gens qui passaient par là. Mais c'était déjà une scène, même si techniquement il n'y avait pas de scène. C'était monter sur scène. C'était prendre ce risque-là. Et je me rappelle très bien de cette sensation d'adrénaline et de joie qui étreint, qui fait peur, où on a envie d'être absolument ailleurs. On se dit, mais pourquoi je me suis mis là-dedans ? Et où en même temps, on est extraordinairement bien. Et je crois que c'est ce jour-là, j'ai attrapé un virus que j'ai encore 25 ans plus tard avec les mêmes, parce que Dionysos, c'est quand même à un près les mêmes. C'est la même famille depuis 25 ans, même les techniciens, il y en a qui sont depuis 20 ans. C'est une histoire très artisanale.
C'est Éric, Michael et Guillaume.
Alors Guillaume n'y est plus.
Mais au départ, il y était. Et ce jour-là, vous avez chanté cette chanson.
Pas juste.
Une chanson du groupe The Clash.
Oui.
Mais alors, curieusement, elle est sortie en 1981 et elle a eu du succès 10 ans plus tard.
Tout à fait, oui. C'est une pub ou un truc comme ça, je crois qu'elle est sortie pour une pub.
Pourquoi cette chanson ? Pourquoi ce groupe ?
Alors, c'est très simple. Les Clash, moi, j'ai toujours été assez fan.
Et il y a notamment des Clash aujourd'hui, mais dans l'info, c'est différent.
Oui, voilà. Des Clash de ce groupe-là et de Joe Strummer, parce que je l'aimais aussi dans les films notamment dans un film de Jim Jarmusch qui s'appelle Mystery Train, où les gens le confondent avec Elvis Presley.
Oui.
Et une espèce de road movie entre Memphis, le Bayou, etc., avec des trains, des Japonais. Beaucoup de poésie et d'un humour comme ça, ce genre d'humour que j'aime, où on n'est pas obligé de faire un gag pour faire rire les gens, juste on a le sourire et la tendresse tout le long du film, avec la super musique américaines, de Bayou et de choses comme ça que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup Joe Strummer et j'aimais beaucoup cette chanson pour des raisons un petit peu simples aussi. C'est-à-dire que quand à la guitare, ton début, c'est difficile de faire les barrés, ce qu'on appelle les barrés. C'est quand on met toute la main pour arriver à prendre tout le manche, toutes les cases et on y arrive assez rapidement avec un peu de travail. Mais au tout début, c'est difficile. Et moi, la première chanson que je suis arrivé à jouer, c'est celle-là parce que il n'y avait pas de barré. On pouvait faire avec le ré, le sol et le la. Donc j'arrivais à la jouer. Donc c'est la première chanson que j'ai jouée parce que moi j'étais complètement autodidacte. Donc je faisais mes premières chansons en même temps que mes premières reprises. Et du coup j'ai commencé par celle-là. Et emblématiquement, comme on aimait Joe Strummer, les Clash avec cette chanson, c'est la première que j'avais jouée un petit peu dans ma chambre. On avait ouvert le concert par celle-là.
Voilà. Alors, il se trouve que vous avez appris à jouer de la guitare, mais que votre vraie passion à l'origine, votre vocation, c'est de devenir joueur de tennis.
Tout à fait. Tennis, tennisman, footballeur, toutes les choses qui calment un petit peu l'énergie, ou en tout cas qui la condensent un petit peu, parce que c'est vrai que j'étais un enfant assez hyperactif. Et quelque part, je le suis resté. Disons qu'avant, c'était plus la dépense physique sur le début de l'adolescence me suffisait. Et puis après, quand le cœur et le cerveau sont mis à se relier et à s'en passionner et pour les filles et pour les livres et les disques et les films, le sport n'a plus suffi. Il a continué de me passionner. Hein. Je suis encore, je suis toujours un passionné de sport et j'essaie d'en pratiquer. Mais j'ai vraiment besoin de l'activité, de la musculation, de l'imagination autant que celle des muscles.
Et Mathias Malzieux, je crois que à votre époque, tout jeune, votre idole, c'était John McEnroe.
Oui, parce que en fait, il décloisonnait peut-être sans le vouloir, mais il faisait d'un match de tennis un moment de suspense Hitchcockien, où en tout cas, il y avait une dimension spectaculaire.
Ouais.
Il haranguait la foule, il était un peu caractériel. Il avait même le rôle du méchant un peu parfois, mais du coup ça donnait une intensité parce que du coup on était dans un tennis où il y avait des personnages. Il y avait Ivan Lendl qui était très placide et qui mettait énormément de temps à servir avec ses copeaux de bois. Enfin, chacun avait des personnages.
Il y avait Borg,
il y avait Jimmy Connors. C'était comme des personnages de western en fait ou d'une mythologie. Et ensuite, je trouve que ça c'est un petit peu le niveau et les athlètes sont devenus extraordinaires aujourd'hui quand on a Federer ou Nadal à voir sur le bord du court, c'est extraordinaire dans la performance. Mais les gens sont très concentrés, ce qui est normal pour un match de tennis. Hein. Mais on a moins ces personnages qui fait qu'on s'attache à eux comme on s'attacherait aux personnages d'un livre presque. Quoi.
Oui. Et les colères de John McEnroe lui ont coûté très cher.
Oui.
D'abord, il n'a jamais eu d'entraîneur, personne n'a voulu travailler avec lui. Et il a été condamné dans 14 tournois et la somme totale représente $70,000 d'amende.
Ça fait cher l'énervement.
Ouais.
Mais en même temps, c'est presque dommage qu'on se souvienne aussi que de ses colères parce que ses colères allaient avec une forme de... d'hypersensibilité et d'énergie qui fait qu'aussi il jouait comme personne. C'est pas juste parce que c'était le numéro un mondial, il avait une façon de servir que n'importe qui se casserait le dos en deux s'il servait en mettant les pieds comme il les mettait. Il avait des prises de raquettes qui étaient complètement pas orthodoxes. Quand on prend sa raquette comme ça à l'école de tennis, les gens vous disent « Ah non, surtout pas !» Donc lui, c'était un petit peu... c'était un Picasso de la fin de sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il désapprenait, il faisait les choses en génie, à sa manière, et du coup, il amenait une poésie à ce sport rare, je trouve.
Alors, tout a commencé pour vous, Mathias Malzieux, au lycée Camille Vernet, à Valence, car c'est là que vous avez rencontré vos copains, et
oui.
Vous avez fait une formation, un orchestre, sans penser un jour enregistrer un album.
On avait des rêves, quand même.
Oui, mais enfin, c'était pas l'obligation numéro un.
Non, on avait des rêves, mais on n'avait pas de prétention, déjà, parce qu'on savait pas comment ça marchait du tout. On n'avait pas de grands frères ou de copains groupes qui avaient fait déjà un début de carrière ou quoi que ce soit. Donc on essuyait nos plâtres en fabriquant notre maison en même temps. Donc on avait juste des rêves. On commençait à écouter les Pixies, Nirvana, Tom Waits, le Velvet Underground, Leonard Cohen. On avait cette culture comme ça qui commençait à se monter et qui nous faisait rêver, qui nous donnait envie de fabriquer des chansons et d'essayer de les jouer sur scène. Donc on est parti vraiment de là à répéter avec passion tous les samedis après-midi, quoi qu'il arrive. Tous les samedis, à 14h, on était là et on quittait le local à 21h, épuisés. Et voilà, qu'il vente, qu'il neige, ou qu'il fasse soleil, ou qu'il y ait des chagrins d'amour ou des problèmes, tout le monde était toujours là au poste, sur le pont, tous les samedis.
Alors Dionysos, c'est un dieu grec de la tragédie et du vin. Pourquoi avoir choisi ce nom, Mathias Malzieux ?
Oh, c'était un petit fantasme de terminale. Hein. Moi, je me rappelle très bien ces deux choses en fait qui sont arrivées en même temps. C'était à la fois un cours sur Nietzsche avec la naissance de la tragédie, aussi l'opposition entre Apollon et Dionysos. Et j'aimais bien l'idée un petit peu sauvage et où tout était possible, où le champ des possibles était tout le temps ouvert avec Dionysos. En plus, on cherchait un nom qui n'était pas... on n'avait pas envie de s'appeler The quelque chose.
Oui.
En même temps, notre culture était plutôt anglo-saxonne, mais on n'avait pas envie non plus de la fermer sur l'anglo-saxon. Et en même temps, on ne voulait pas un nom qui fasse trop français non plus. Donc là, Dionysos, c'était bien. Et puis en plus, j'avais vu le film d'Oliver Stone sur les Doors. Et j'étais très très fan et toujours des Doors. Et à un moment donné, il y a une discussion, alors je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est pour le film, mais entre Ray Manzarek, le clavier, et Jim Morrison, et où lui dit « Ah, on devrait l'appeler Dionysos, notre groupe. » Puis il fait « Ah non, finalement, les Doors, parce que les portes de la perception et tout. » Mais tu te dis, ils ont presque failli s'appeler Dionysos. Donc s'ils ont laissé ça en plan, ben, nous, on prend.
Et ben voilà. Et c'est
on
comme
récupère,
ça que ça...
Hein, nous, ça nous plaît.
Et ça a commencé et ça a continué. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 7 septembre 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Mathias.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mathias Malzieu, avec des souvenirs liés à une date, 7 septembre 1999. Ça vous dit quelque chose?
Je pense que là, c'est la sortie de l'album Haïku.
Oui, avec cette chanson.
Sa version live.
Ouais. Alors cet album a une histoire parce que c'est la première fois que vous êtes distribué par une vraie maison de disques.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est vous aviez trouvé Tréma, je crois, à l'époque, qui était celle de Michel Sardou et Jacques Revaux. Et cet album, alors on m'a dit au départ que vous aviez pensé à une écriture automatique, un exercice, et que vous aviez pensé aussi à Lautréamont.
Oui, bah j'étais à fond là-dedans. J'étais à fond là-dedans et en même temps, on l'a enregistré à San Francisco. Et à San Francisco, il y avait cette fameuse librairie extraordinaire qui s'appelle la City Lights, qui existe encore, et qui était aussi une librairie et en même temps un éditeur, et qui a sorti tous les premiers textes des poètes de la Beat Generation, Kerouac, Corso, Ginsberg, et dont des textes qui ont été ensuite censurés et qui sortaient un petit peu comme ça, un peu sous le manteau. Donc c'était de la vraie résistance poétique et ça a été le début en fait du mouvement Beat Generation. Donc moi j'ai passé énormément de temps dans cette librairie qui me faisait rêver depuis des années et j'étais à la fois porté par mes découvertes d'un petit livre de Jack Kerouac qui s'appelait Western Haiku. Donc j'ai découvert les haïkus pas par des poètes japonais mais par Jack Kerouac et du coup après dans cette librairie j'ai acheté plein d'haïku japonais d'époque quoi et du coup ça m'a tellement plu en fait cette forme brève que ça me faisait penser au format de la chanson, c'est-à-dire le côté de dans 3 minutes comme là dans 3 vers pour le haïku arriver à dire une humeur ou une sensation, et ça me faisait penser au petit film que je faisais aussi à l'époque avec les bobines Super 8. Une bobine Super 8, à l'époque, c'était 3 minutes aussi. Et j'aimais bien, en fait, cette urgence du format court. C'est pour ça que je l'ai appelé Haïku.
Voilà. Et Lautréamont, là-dedans, vous a inspiré aussi. C'est un poète que vous connaissiez?
Ouais, bah, les Chants de Maldoror, c'est dans sa sauvagerie et dans son animalité, ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait soufflé. C'est ce genre de lecture où on se retrouve tard dans la nuit et où on a l'impression qu'on a un cousin télépathique comme ça qui vous parle et qui vous dit des choses qui vous font extrêmement peur, mais où on est heureux d'avoir peur, comme quand on regarde un film d'horreur ou quand on doute, quand on est dérangé, mais que c'est agréable d'être dérangé.
Et Lautréamont, c'est un poète qui est mort très très jeune, à 24 ans. Il s'appelait Isidore Lucien Ducasse. Il a été comte de Lautréamont en pensant à un roman de Eugène Sue, romancier du 19e siècle des Mystères de Paris, qui avait fait un livre qui s'appelait Lautréamont.
Ah, je ne savais pas
et
ça.
Et c'est comme ça que c'est né ce pseudonyme. Alors, tout ça vous a inspiré beaucoup. Le groupe a évolué puisqu'une femme est arrivée, Babette, et ça aussi...
Elle était là déjà sur Haïku.
Oui, mais ouais. Elle est arrivée au deuxième album.
Et tout à fait, après 3 ans. Ouais.
Et une femme se mêlant à 3 copains, ça s'est bien passé? Elle s'appelle Babette.
Elle est toujours avec nous. Et oui, je pense que c'était vital, je pense, pour le groupe. Parce qu'elle a amené, en fait, un contrepoint... Et puis le fait d'arriver dans un groupe de gars d'une vingtaine d'années, tout le temps dans un camion, c'est bien qu'il y ait une fille au milieu, franchement, pour rééquilibrer un petit peu, pour, c'est comme un espèce de modérateur de féminité, c'est très très bien. Surtout à cet âge-là, je pense qu'en plus on est très en retard sur les filles quand on a ces âges-là de 19, 25 ans. Après ça s'équilibre un peu mieux, mais enfin moi je sais qu'adolescent, ben voilà, c'est pas un hasard d'ailleurs si mes petites copines avaient toutes 4-5 ans de moins que moi, parce que celles de mon âge, elles pouvaient pas me supporter.
Oui.
Et on est quand même pas très mûrs sur ces âges-là.
C'est vrai.
Ça s'améliore un tout petit peu après, mais là du coup c'était très très bien. Ma bête, au-delà de, évidemment, la femme qu'elle est, l'artiste qu'elle est, juste le fait que ça soit une fille qui débarque un peu dans ce monde un petit peu de petits mecs, c'était très très bien.
Et comment vous êtes-vous retrouvé, Mathias Malzieu, à San Francisco ?
Alors en fait, donc on a signé ce premier contrat en maison de disques, hein, c'était un peu magique pour nous, parce que c'était un vrai conte de fées. Nous, on était des petits groupes de province, on faisait nos petits concerts avec vraiment à la force du poignet, de manière ultra artisanale. Et puis on a eu la chance en fait d'être repéré par une radio qui s'appelle Couleur 3, une radio suisse extraordinaire. Et on a fait un premier en ramassant les abricots, qu'on a financé nous-mêmes, ramassant les abricots l'été. Le second part sur un micro-label suisse. Et puis, en fait, cet album nous a permis de faire des premières parties de Louise Attaque, à l'époque, que je continuerai de remercier. Et d'ailleurs, je suis toujours très copain avec Gaëtan. Avant de monter sur scène, il mettait une chanson à nous qui s'appelle Wet, qui commençait l'album.
Hey, on va l'écouter.
Ah bon, bah super. Ah, c'est marrant.
Car ça a été une chanson mythique qui, effectivement, vous a permis de démarrer, Mathias Malzieu.
Bah ouais, c'est... Et du coup, elle passait un peu en radio sur Couleur 3. Et en fait, les Louise Attaque, avant de monter sur scène, se mettaient ce morceau sur un ghetto blaster hyper fort dans l'horloge. Et ils rentraient sur leur concert comme ça. Et du coup, ils s'étaient renseignés sur nous pour nous faire jouer en première partie. Et on a joué en première partie, notamment à Rennes. Un souvenir terrible parce que le technicien avait effacé les réglages. Donc, avant qu'on monte sur scène, le public qui criait déjà Louise Attaque parce qu'il y avait eu un groupe avant, ils en avaient marre et tout. Truc complètement fou. Et nous, on fait notre concert, mais vraiment le couteau entre les dents, à la rage complète, juste à l'énergie. On sort du concert, mais complètement déprimé. On se dit, bon, on a été nuls. Et puis, il y a le directeur artistique des Louise Attaque qui vient nous dire, bon, ben, on a adoré, on veut faire un rendez-vous en maison disque avec vous pour vous signer la maison disque.
Et justement, cette version existe aussi en live.
Wet, wet, wet.
Ça, c'est enregistré avec le public déchaîné. Hein.
Ouais. Ça, c'est une version très, très différente de l'original qu'on a enregistrée sur une... On a souvent fait des tournées acoustiques où on changeait complètement les arrangements des chansons, ce qui est toujours un bon test pour une chanson. À partir du moment où elle supporte plusieurs habits, c'est qu'elle résiste au temps et c'est bien un peu de les bousculer, c'est bien de les enregistrer sur un disque et après de les amener ailleurs sur scène. Et c'est l'intérêt de faire une tournée acoustique, par exemple. Et la chanson, la version que vous venez de passer là, c'est la version des lives Whatever's Whoever sur 2003.
Quelle mémoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vos premiers disques étaient en anglais, vous les faites en France.
Tout à fait.
Et l'album de San Francisco, vous le faites en français.
C'est vrai. C'est vrai, il y avait sur le deuxième album, la reprise de Jacques Dutronc, Fais pas ci, fais pas ça.
Ouais.
Et notre première chanson en français, qui s'appelle Ciel en sauce, qui a été très importante pour moi, parce que c'est avec cette chanson que j'ai commencé à prendre du plaisir à écrire en français à nouveau. En fait, au début, j'écrivais tout en français. Et puis, en fait, après, j'ai fait mes découvertes de blues du Mississippi, de toute cette culture un peu qui m'a pris au cœur. Et là, je me suis mis à tout écrire en anglais. Et au moment où on a fait le premier album, c'était le moment des chansons toutes en anglais. Et c'est un moment où on répétait tous les samedis, où on n'avait pas de concert, etc. Donc, ça allait très vite. Une chanson, on l'a jouée 2-3 mois. Et si elle nous plaisait plus, eh ben c'est pas comme si elle était sur un album, etc. On était vraiment, c'était le bouillonnement du groupe et on était en train de se construire. Donc tout changeait très très vite. La forme du groupe n'était pas stabilisée. Et ça, c'est le moment du premier album.
Et ben voilà, et il s'est passé ensuite d'autres choses en dehors de la chanson. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 5 février 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Mathias Malzieu.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mathias Malzieu, avec des dates chères à votre cœur. 5 février 2014, apparemment, vous avez le souvenir de tout.
Oui, c'est une double date très très particulière.
Quelle mémoire.
Parce que c'est le jour où sort mon film Jack et la mécanique du cœur, sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Film d'animation adapté de mon deuxième roman et du 5e album du groupe.
Oui. Tout en même temps.
Donc c'est 10 ans de ma vie, la mécanique du cœur.
Et d'ailleurs, on en écoute un extrait.
J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme.
Alors, pourquoi cette aventure, justement, d'animation, alors que vous êtes chanteur, romancier, c'est tout à fait autre chose, Mathias Malzieu.
Bah, en fait, moi, j'ai toujours eu une passion équilatérale entre les disques, les livres et les films. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Et après, on peut les plonger dans différents bains révélateurs, cinématographiques, littéraires ou musicaux, des différents formats. On parlait tout à l'heure de la chanson comme un haïku. Et en même temps, donc, pour moi, le muscle créatif de la chanson, c'est comme quelqu'un qui courrait un 100 mètres. Il faut avoir le sens de la formule, il faut arriver à poser un climat très vite, en très peu de temps. Et puis, il y a ce plaisir du roman, qui est plus un truc de marathonien. Ou si on part comme dans une chanson, en vitesse 100 mètres, on explose au bout de 2 km. Et en fait, tout ça me plaît autant l'un que l'autre. Parce qu'en fait, ça me permet de dire les choses autrement et de m'auto-surprendre. Et à partir du moment où je me surprends, je sais que je peux être dans une certaine forme de vérité. Que je raconte un truc imaginaire ou pas, ou réel, c'est peu importe. Il y a une vérité parce que je deviens le débutant de quelque chose. Alors je ne suis pas dans un exercice ou dans un système. Je suis en train de m'auto-surprendre et de débuter quelque chose d'autre. Et ça, c'est un principe d'aventure. Et pour moi, pour la création et la créativité, c'est vital.
Alors, vous êtes débutant puisque vous co-réalisez ce film avec Stéphane Berla.
Oui.
Et au départ, c'est Luc Besson qui a eu l'idée. Et vous avez posé, je crois, comme condition de co-réaliser ce film, Mathias Malzieu.
En fait, il s'est passé un truc assez magique aussi. C'est qu'on fait la promo du disque et du livre au Grand Journal à l'époque, invité par Michel Denisot. Et ce jour-là, il y a Luc Besson aussi invité. Et on fait la chanson, Tais-toi mon cœur, en duo avec Olivia, avec Dionysos.
Olivia Ruiz.
Olivia Ruiz, bien sûr, qui est le personnage principal féminin de cette histoire. Et dans la vraie vie, et dans le film, et dans le disque, et partout, elle était partout. Et puis à la pub, là, ça dure un peu plus longtemps parce que Didier Drogba est en retard.
Oui.
Et pendant ce temps, Luc Besson me dit mais ton histoire là, tu veux vraiment en faire un film? Parce que moi j'avais fait donc le livre et le disque comme la bande originale du livre avec un fantasme de cinéma. Et évidemment, c'est ce que je racontais en interview parce que c'était vrai. Et Besson me regarde comme ça et me dit mais tu veux vraiment faire un film? Je fais bah oui, c'est le rêve. Après, si ça se fait pas, c'est pas grave, parce que ça aurait été une intention, une inspiration, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Moi, j'ai fait une fac de cinéma, j'ai fait ma maîtrise sur Jim Jarmusch. Tout ça me passionne complètement. Et il me dit ben voyons-nous, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et après, ce qui se passe, c'est qu'un mois plus tard, il me donne un rendez-vous et il met le disque pour amener ses enfants à l'école le matin, et ses enfants lui réclament tout le temps la même chanson. Et cette chanson, c'est quand même, faut le faire, c'est la fameuse chanson numéro 6 qui s'appelle « Cunilingus, mon amour ».
Oui.
Donc, c'est quand même l'histoire normalement d'un hamster, d'un enfant qui est élevé par des prostituées qui s'amusent à lui dire des mots un petit peu coquins sans que lui ne sache ce que ça veut dire. Lui, il croit que Cunilingus, c'est un héros de la Rome antique. Oui. Et il appelle son hamster comme ça. Et du coup, il y a son fils qui lui demande tous les « Et qu'est-ce que c'est Cunilingus ?» tous les matins. Et « Je veux la 6, je veux la 6. » Et ça l'a beaucoup amusé. Donc, après, sa femme a lu le livre. Et ça lui a plu, et ils m'ont rappelé un mois plus tard, et m'ont dit « Écoute, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « Ben, moi, j'aimerais réaliser ce film, pas tout seul, parce que en animation, mon expérience est quand même seulement sur des clips. » Et on a monté toute une équipe, et ça a été une aventure extraordinaire. Mais le 5 février, c'est une double date, parce que c'est aussi le jour où je rentre en chambre stérile pour me faire soigner d'une maladie auto-immune très grave qui a failli me coûter la vie quand même.
Oui, donc, je crois que vous tourniez le clip et vous êtes senti mal, fatigué, et qu'on s'est aperçu que vous aviez une maladie fort rare.
Oui, en fait, c'était quelques jours avant et j'arrivais plus à respirer entre les prises. Puis tout le monde me disait que j'étais quand même très blanc. Mmh. Donc j'ai fait une des prises de sang le lendemain. Et le fait est que j'avais plus de globules rouges, donc plus d'oxygène dans le sang, plus de globules blancs, donc plus de défense.
Et comment ça se fait ?
En fait, c'est comme un bug. C'est comme si je m'étais fait hacker mon système immunitaire quelque part. C'est-à-dire que notre système immunitaire, tous les jours, en fait, on est traversé par des virus et il les combat et cliniquement, on les sent même pas. il les évacue. Et là, il y a eu un bug, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, mon système immunitaire a confondu ma moelle osseuse, qui donc produit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui nous permettent de coaguler correctement, l'a confondu avec un virus, donc je me suis mis à m'auto-détruire.
Et finalement, bon, ça s'est arrangé en chambre stérile, ça a été compliqué.
11 semaines, oui.
11 semaines, il y a un médecin qui vous envoyait un smiley avec écrit « petit pas par petit pas ».
Ah oui, c'est le professeur Péfaud de la Tour qui est devenu un espèce de papa numéro 2, qui est un type extraordinaire. Le mec, il pourrait être Deschamps, il pourrait être champion du monde de foot, il pourrait être tout. C'est des gens, en fait, c'est un maître Jedi, quoi. C'est des types qui sont au-delà de leur technicité, qui ont un rapport à l'écoute, à l'empathie, à la pédagogie et à l'encouragement extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré évidemment faire des livres, des films, des disques, des enfants, des voyages pendant cette période, mais pendant ce trou noir que j'ai dû traverser, j'ai rencontré des gens fabuleux, les infirmières, et ça va du professeur à l'infirmière, à l'aide-soignant, qui t'amène un jus de fruits le matin. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans ma chambre en automatique. Donc ils étaient ma maison pendant 11 semaines, et ils étaient ma maison émotionnelle aussi. Et j'ai un respect et une admiration pour ces gens-là, qui travaillent dans les catacombes, dans des moments difficiles, qui doivent comme ça vous encourager, qui sont des cigognes aussi, parce qu'ils accompagnent des gens et après ils doivent les lâcher. C'est-à-dire que soit c'est parce que ça va mieux, soit c'est parce que c'est fini, et je passerai ma vie à les remercier.
Alors justement, vous ne pouvez pas écrire avec du papier, mais vous pouviez écrire avec votre smartphone. Et vous avez écrit, je crois, le journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu, avec le smartphone.
Beaucoup avec le smartphone. J'avais ensuite, sur la deuxième partie de l'hospitalisation, droit à mes instruments et à mon ordinateur. Donc je m'étais fait un espèce de poste de combat avancé devant la fenêtre, comme ça, où j'avais smartphone, ordinateur, petit piano jouet rouge, ukulélé, guitare. Alors ça les a beaucoup abîmés, parce que tous les jours il fallait les stériliser. Ouais. Mais je me levais à 6h du matin, parce que j'avais la prise de sang. Je me prenais un petit thé. Je savais qu'avant 9h, j'avais pas de soins. Et bon, après, il y a eu les moments où la prise de greffe et tout, j'avais 42 fièvres, bon, là, je me levais pas. Mais sinon, tous les autres jours, pour pas devenir un malade, pour rester moi-même, eh ben, je m'habillais et je me mettais à mon poste. Et des fois, j'écrivais 3 lignes et 2 accords. Et des fois, j'écrivais 3 pages, mais j'ai quand même écrit, disons, 80% du livre et au moins 7 ou 8 chansons.
Oui, et une chanson est dédiée à une infirmière. Elle était peut-être pas au courant, c'est Hospital Blues. Là, effectivement, c'est une infirmière qui vous a donné l'idée de cette chanson, Mathias Malzieu.
Oui, il y avait même, c'était une infirmière qui, avec laquelle on avait des discussions, des fois la nuit, c'était une infirmière de nuit, et elle était spécialisée en bouillotte. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans les prises de greffe où on a des fièvres qui vous font avoir des fois très très chaud, des fois très très froid. Et elle, en fait, très très vite, elle confectionnait des bouillottes avec 3 fois rien, qu'un bout de papier, des choses comme ça. Elle ramenait des bouillottes, et donc du coup, je l'appelais un petit peu la bouillotte. Et on discutait beaucoup de musique, ce qui fait que quand j'ai commencé à composer cette chanson, bah, elle a un peu entendu toutes les étapes de cette chanson. Hospital Blues.
Alors, à l'époque, vous avez fait un vœu. Si vous guérissiez, vous avez fait un pari totalement fou, Mathias Malzieu.
Oui, j'avais écrit cette chanson en chambre stérile qui s'appelle Vampire en pyjama et qui conclut l'album Vampire en pyjama. Où je disais, je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Après, voilà, il y avait aussi le truc sur le refrain Dionysos est né 2 fois. Parce que quand même, Dionysos, ça veut dire né 2 fois. Donc c'est quand même un peu dingue, hein, pour quelqu'un qui est greffé de la moelle osseuse. Et j'ai changé de groupe sanguin, donc il y a tout ça dans la chanson. Et du coup, après, je l'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis devenu un être humain à nouveau, c'est-à-dire que je n'étais plus un vampire, j'avais plus besoin, après avoir été transfusé plus de 150 fois, j'avais plus besoin du sang des autres comme un vampire. J'ai arrêté ce journal, j'ai repris la tournée, on a sorti l'album et le livre, et au milieu de la tournée, en fait, on a eu une petite pause l'été. Et je suis parti effectivement avec un skateboard à moteur en Islande, et je suis allé jusqu'au cercle polaire. J'ai traversé le cercle polaire en skateboard. Et j'en ai tenu un livre comme un dans le fantasme des écrivains voyageurs qui m'ont toujours passionné, de Jack London à aujourd'hui Sylvain Tesson en France. J'ai tenu un carnet en fait, et je l'ai sorti. Ça s'est appelé Carnet de bord. Ça a été avec le poche pour le livre de poche sur Vampire en pyjama. Et la continuation de la belle histoire là-dessus, c'est qu'une superbe boîte de production qui s'appelle Magneto Press, diffusée par Arte, m'a proposé de le faire en film. M'a dit, refais-nous une note d'intention, mais sur un autre pays, pour que ce soit dans la pure découverte. Donc là, je ne me suis pas privé d'aller en Norvège, où il y a évidemment le cercle polaire aussi, mais les fjords et aussi toute la Laponie avec le peuple Sami, les éleveurs de rennes. Et j'ai fini en skateboard avec un éleveur de rennes extraordinaire, qui est en plus le sosie de Genesio, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Donc tout était pour me plaire. On pouvait à la fois parler de football et de poésie dans la même journée, donc c'était extraordinaire.
Et dans votre voyage en Islande, il y a des moments qui vous ont marqué. Je crois qu'il y a eu une aurore boréale, oui, et l'ascension d'un volcan. Ça, ce sont des moments que vous n'oubliez pas.
Oui, exactement. C'est vrai que j'ai eu un petit truc qui a ressemblé à mon mini niveau, à ce qui s'était passé pour le rêve de Jack London, qui était parti avec ce livre qui s'appelle « La croisière du Snark », où, après avoir eu quelques succès avec ses livres, il veut pas faire le tour du monde en bateau. Mais du coup, il monte un bateau un petit peu de briques et de broc. Et au bout de quelques jours, en fait, le bateau fait naufrage. Il doit retourner au port et recommencer. Et moi, à mon tout petit niveau, j'étais parti avec ce skateboard à moteur. Et au bout de deux jours, parce que j'ai quand même, évidemment, en Islande, il fait tous les temps dans la journée, il y a toutes les météos, et il y a notamment le blizzard. Et je me retrouve avec l'explosion du moteur, mon rêve s'arrête, parce que le truc, après, il fait 10 kilos, donc une fois qu'on n'a plus la télécommande et le moteur, ça marche pas vrai. C'est très désagréable, on ne peut plus en s'en servir. Et je me suis retrouvé dans un petit village du nord de l'Islande, avec un gars qui avait deux skateboards dans un magasin de sport tout minuscule. Et je suis reparti avec ce skateboard-là, en skate, stop. Et là, je suis passé par des endroits que je n'aurais jamais visités si j'étais resté sur la route principale avec mon skateboard à moteur. Donc c'est toujours, en fait, la question de l'échec. C'est toujours comment on s'adapte à cet échec. Et c'est là qu'en fait commence la vraie aventure. Et je me suis retrouvé effectivement face à un volcan. Et j'ai eu une pulsion étrange de vouloir monter tout en haut. Donc j'étais mais carbonisé de fatigue, mais il y avait personne, et j'aurais pu raconter que j'étais en haut de ce volcan. J'avais des mal aux mollets, j'en pouvais plus, mais j'ai eu une récompense de sidération extraordinaire quand je suis arrivé en haut et que j'avais un cratère qui faisait la taille du Stade de France et que j'étais tout seul face à lui avec mon petit skateboard non à moteur et que je n'aurais jamais vu si mon moteur avait tenu.
Ouais, effectivement. Il s'appelait Rosie, je crois.
Oui, en fait, j'avais appelé... C'était comme c'était mon bateau pour moi. J'avais appelé mon premier skateboard Rosie 1, Rosie 1, du nom de ma compagne. Et puis le deuxième, du coup, j'avais appelé Rosie 2. Oui. Et le joli truc, c'est que quand je suis rentré, que j'ai sorti le livre, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé, qui fabrique des skateboards, qui s'appelle Liu Kuma. Sur Instagram, et qui fait des skateboards incroyables, ce type-là m'a envoyé par la poste une planche avec écrit Rosie 3, et où il m'avait dessiné le personnage à tête de cœur qui illustrait le vampire en pyjama, le livre et le disque. Et du coup, je suis parti en Norvège avec Rosie 3, donc dans le film qu'on peut trouver sur Arte en ce moment en replay et qui est diffusé le 3 mars à nouveau, je skate en Norvège sur Rosie 3.
Alors, il y a Jacques Brel qui disait « Le talent, ça n'existe pas, le travail, c'est l'essentiel ». Je crois que vous partagez entièrement cette devise, Mathias Malzieu. Vous travaillez énormément.
Oui, et puis il disait autre chose d'intéressant, Brel, là-dessus. Il disait aussi « Le talent, c'est le désir ».
Oui.
C'est-à-dire, c'est le mec qui se lève le matin, il veut aller pêcher un poisson, il a envie de manger un poisson, et il se lève, il prend sa canne à pêche, il va essayer d'aller à l'endroit où il pense qu'il y a du poisson, il prend sa barque, et puis s'il n'y arrive pas, il recommence. Et puis un jour, il attrape son poisson, il le mange et il a réussi. On dit que c'est les gens de talent qui ont réussi. En fait, c'est les travailleurs qui réussissent. Après, il y a une petite part de chance et il y a une petite part de facilité. Il y a des sensibilités. Mais c'est comme on le voit sur un joueur de foot, quoi. Des mecs qui ont des facilités. S'ils ne bossent pas l'entraînement, ils ne marquent pas le jour du match.
Et Brel, il travaillait 18 heures par jour pour écrire 12 chansons par an.
Ouais.
Entre deux tournées. Et il faisait 300 dates par an. C'était du travail en permanence.
Oui, mais parce qu'en fait, on muscle son imagination et on se permet... le fait d'avoir des réflexes et qui ne sont pas des réflexes de gens en automatique. Je vous parlais des gens qui n'étaient jamais en automatique dans ma chambre stérile. Et Brel, quand il était sur scène, il était dans l'ultra-instant. C'est pour ça que pour moi c'est un punk et que la première fois que je l'ai vu sur scène, ça m'a beaucoup plus impressionné que finalement des groupes avec trois guitares électriques qui se roulaient par terre.
Il faisait 45 minutes de scène, Brel.
Et jamais de rappel,
parce qu'il dit un comédien, ça fait pas de rappel. Et surtout, il changeait deux fois de chemise pendant un spectacle tellement il transpirait, il donnait tout.
Il donnait tout et je trouve que c'est la moindre des politesses quand on est sur scène. Et j'ai une admiration sans borne pour ça. Mais il y a différentes manières de donner. Brassens, lui, il n'était pas dans la transpiration et il donnait avec son côté pince sans rire, ses chansons extraordinaires. Il avait très très peur de la scène, mais c'est pas toujours celui qui saute le plus loin comme moi je peux le faire ou le plus gros qui donne le plus. Mais chacun s'exprime comme il peut, comme il veut, avec sa personnalité. Mais moi, je suis autant fasciné par Leonard Cohen qui bouge pas derrière son chapeau avec deux notes que par Iggy Pop qui se roule par terre. Parce que c'est des vrais gens qui donnent.
Et oui, et vous donnez beaucoup. Et on va en reparler dans quelques instants avec une date très récente, le 7 février 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Mathias.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mathias Malzieu. On a parlé du passé avec des souvenirs fabuleux que vous avez avec des dates précises. Et une date très simple, très récente, le 7 février 2019, c'est la sortie de ce roman Une sirène à Paris chez Albin Michel, qui est un roman dont le héros, qui s'appelle Gaspard Neige, découvre une sirène sous un pont de Paris. C'est quand même totalement hallucinant. C'est une fable, c'est un récit poétique. Comment est née cette idée ?
En fait, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de raconter de quelque chose de très très simple et très universel, mais d'utiliser la poésie et le fantastique pour le dire plus. Façon Commedia dell'arte, on met un masque pour se dire soi-même encore plus. Finalement, c'est l'histoire d'un personnage qui a été quitté et qui, en même temps, dans une période assez proche, a aussi perdu sa grand-mère, qui était vraiment la personne qui l'a éduquée et qui a été sa maîtresse à penser, en plus. Donc, c'est tout un monde qui s'écroule chez lui. Et il est dans le déni, c'est-à-dire qu'il pense qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux parce qu'il ne se pense plus capable de la joie et il ne se pense plus capable d'endurer la souffrance, la déception. Donc, il est dans ce moment-là. Et je trouvais très intéressant de lui mettre entre les bras ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, c'est-à-dire la plus belle et la plus dangereuse des femmes. Donc ça existe dans la vraie vie.
Oui.
Ça existe. Et on a
ça
tous
s'appelle les cocottes. Oui.
Et on peut les appeler les cocottes ou les sirènes, mais en tout cas, cette personne qu'on va rencontrer beaucoup trop tôt, où on va commencer à tomber amoureux alors qu'on pense que c'est pas encore possible, et sur la question du deuil amoureux et du deuil aussi de comment on se transforme, c'est un livre sur ça et sur la sublimation de... À partir d'un traumatisme, comment on arrive à recroire en ses rêves ? Parce que recroire en ses rêves, c'est pas juste soit une régression, soit quelque chose d'enfantin. C'est quelque chose aussi, c'est l'huile qui nous permet de résister quand même. Et de revenir au concret des choses. Et après, cette sirène pour le côté magique, c'est parce qu'il y avait la crue de 2016, la vraie crue de 2016 de Paris, et que je trouvais magique parce qu'il y avait ces ponts qui avaient rapetissé, il y avait ces canards au milieu de la route qui grillaient des sens interdits, il y avait tout ce côté-là un peu magique des feux de signalisation qui passaient du rouge au vert alors qu'ils étaient dans l'eau, et je trouvais ça surréaliste en soi. Du coup, il y avait un côté réalisme magique, c'est-à-dire tout est vrai, et on peut ajouter encore un élément qui fait basculer le truc complètement dans le conte. Finalement, le seul élément surnaturel de l'histoire, c'est la sirène. Mais évidemment, elle colore et elle change tout.
Voilà. Alors, cette crue de 2016, juste en face de Sud Radio, moi, j'étais allé faire un tour parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient contempler la scène qui était très, très haute. Il y avait un pauvre type qui avait garé sa voiture très, très mal. Donc, il espérait une amende, mais il n'y a plus eu de voiture parce qu'elle a fini sous l'eau.
Bah oui, c'est ce que j'appelle les aquariums sur roues.
Et Pierre Cardin avait un bateau, le bateau Maxime d'un côté de la Seine. Et il a dit à ses collaborateurs, de toute façon, nous, on risque rien. La Seine, elle montera de l'autre côté. ce qui était un optimisme total. Donc, ouais. Cette sirène, vous la ramenez, enfin, ce personnage la ramène chez elle et il va essayer de la mettre dans sa baignoire, ce qui est normal, pour essayer de la sauver, de la soigner.
Oui, c'est l'image que j'avais, en fait. On tombe des fois amoureux d'un flash. Et après, il faut tomber amoureux de ses idées très très fort pour pouvoir ensuite s'engueuler avec ses propres idées et les remettre en question. Mais il faut les aimer très très fort pour les porter loin dans un voyage aussi personnalisé que l'écriture d'un roman. Et là, j'ai cette image de ce personnage qui pense qu'il tombera plus jamais amoureux et qui met cette, cette sirène dans sa salle de bain et qui commence, bon, il a un peu un frigo de célibataire, donc il a 3 bouts de poisson pané et un paquet de pâtes qui traîne, et il lui fait du poisson pané et elle fait semblant de trouver ça bon alors qu'elle trouve ça absolument dégoûtant comme type de non-poisson, on va dire. Et puis elle qui lui dit, non mais vous avez entendu ma voix, vous allez mourir, tous les hommes qui entendent ma voix...
Depuis l'Odyssée, c'est une tradition.
Bien sûr, donc je me suis amusé à reprendre cette dimension mythologique de la sirène et de la voix. Et ça m'intéressait parce que lui était chanteur et qu'il soit en plus... qui croit qu'il allait résister au charme d'une voix d'une sirène, ça le mettait vraiment en mauvaise posture. Et elle lui dit gentiment, elle fait, non mais tous les hommes qui entendent ma voix, ils tombent tellement amoureux de moi que leur cœur explose d'habitude quasiment tout de suite. Là, vous êtes encore là, vous êtes assez résistant, mais ça dure jamais plus de 3 jours. Et lui, il lui fait, non, non, mais moi, la femme de ma vie m'a quitté il y a 6 mois, je ne ressens plus rien, je n'ai plus aucune joie, donc je risque absolument rien, je vais vous soigner, et quand vous irez mieux, je vous ramènerai à l'eau. Et là commence évidemment l'histoire d'amour impossible entre lui qui va être dans le déni, qui va commencer à avoir mal au cœur, et elle qui, pour la première fois, a quelqu'un qui ne la persécute pas, qui ne l'attaque pas, et qui va découvrir le sentiment amoureux.
Alors justement, comme vous faites tout en même temps, il y a le roman, mais bien sûr, vous avez fait une chanson, Une sirène à Paris, Mathias Malzieu. Ça, c'est encore Dionyso, c'est un album ?
Oui. Alors en fait, moi j'ai écrit l'album de Dionyso, c'est prêt.
Oui.
Et en fait, toutes ces chansons, dont celle-là, c'est la chanson quand il chante avec la sirène dans le voiceographe. Cette petite appareil à fabriquer les vinyles à un exemplaire, qui marche comme un peu un photomaton musical.
Encore une de vos inventions ?
Pas du tout, ça a existé complètement. Ouais. C'est toujours en fait des choses qui sont un peu extraordinaires, mais qui viennent du vrai. C'est comme la crue, ça a existé. L'appareil à graver les vinyles, ça a existé. À un moment donné, je parle d'un coquelicophone. C'est un mot que j'ai inventé. Mais par contre, c'est un harmonica multiple qui est sur un axe avec 3 harmonicas, 3 tonalités. Ça existe aussi, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est toujours un petit peu, je prends toujours des choses de la réalité, mais je m'amuse quand même un petit peu les transformer. Mais là, pour l'album de Dionysos, j'ai fait en fait les chansons de Gaspard. Je me suis mis à la place de Gaspard et j'ai fait toutes ces chansons, dont celle dont on vient d'entendre un petit extrait.
Alors, il y a aussi une chose que vous avez inventée, Mathias Malzieu, c'est le Flower Burger, qu'on sert sur une péniche, la péniche de votre grand-mère.
Alors là, pareil, c'est un amalgame de réalité et d'invention. Ma grand-mère, pour de vrai, pas du tout à Paris, avait une épicerie à la frontière allemande et cachait des résistants dans la cave. Donc ça, c'est une histoire vraie. Ça a existé. C'est mon père, c'est un souvenir d'enfance de mon père qui a passé la ligne de démarcation caché dans une charrette de foin parce qu'elle était en zone libre et elle cachait des gens. Enfin, il y avait tout un truc comme ça assez fou et je voulais reprendre cette idée-là. Ensuite, il y a aujourd'hui encore ce qu'on appelle les speakeasy, les bars cachés de la prohibition. Donc j'ai mélangé entre l'épicerie de ma grand-mère et les bars cachés de la prohibition où on pouvait boire de l'alcool quand c'était interdit. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, il y avait le côté à Paris et ce bateau parce que je voulais qu'il soit mis en danger par cette crue. Et j'aimais bien ce côté bateau. Et le Flower Burger, ça vient d'un poème de Richard Brautigan, qui est un de mes écrivains préférés, qui avait dit dans un poème que... Baudelaire, c'était pas du tout ce qu'on croyait. C'était quelqu'un en fait qui avait monté un stand de hamburger et qui mettait les fleurs à la place de la salade.
Ben voyons. Alors il y a aussi des musiciens, il y a un trio, les Barbettes, et puis il y a les Barbettes qui existent
pour de vrai, qu'on peut trouver sur YouTube. C'est un trio vocal magnifique de coréennes qui font du bebop doo-wop coréen extraordinaire.
Et il y a aussi Mathias Malzieu, un chanteur zazou.
Il y a les Azou, bah oui, parce que c'est l'époque un peu du Saint-Germain-des-Prés.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre et juste après-guerre, où des gens comme Boris Vian font venir Duke Ellington, font arriver le bebop, et où il y a une certaine chanson française aussi qui commence à se développer.
Avec Gréco et quelques autres.
Avec Gréco, quelques autres. Le fameux journal de Saint-Germain-des-Prés de Vian, où il parle de tout le monde. Où il parle de ses... D'ailleurs, j'ai la chance là, d'avoir rencontré Nicole Berthold, qui
s'occupe de l'héritage de Vian.
Exactement. Et je vais repréfacer ce livre pour le centenaire de Boris Vian.
Et justement, les Zazou, bon, ils étaient là pendant la guerre. Savez-vous d'où vient le mot Zazou, Mathias Malzieu?
Non, ça, je ne sais pas.
Eh bien, c'est une chanson de Johnny S. qui s'appelle Je suis Swing. Et Je suis Swing.
Ah oui, Je suis Swing, bien sûr.
Et il dit dedans Zazou, Zazoué. Et c'est comme ça que les premiers Zazou pendant la guerre, qui résistaient aux Allemands en mettant des chansons américaines, ont créé ce mot-là et qu'il est ensuite entré dans le langage courant.
C'est génial. Et il y a une super chanson de Brigitte Fontaine aussi, qu'elle avait enregistrée. Avec Sonic Youth, je me rappelle, où elle chante « Il y a des Zazous dans mon quartier ».
Tout à fait.
Elle est super, cette chanson.
Chanson très connue aussi. Ouais, alors, dans ce livre, bien sûr, vous racontez que votre sirène lit La Petite Sirène, le conte d'Andersen.
Et il lui met à la télé, en fait. Ouais. Il lui sort une vieille VHS et il cherche dans ses VHS d'enfance un peu, parce que voilà, les VHS, c'est les films des années 80. Donc, en VHS, il n'a plus que E.T., Gremlins, Retour vers le futur et La Petite Sirène. Et il lui met La Petite Sirène. Et j'aimais bien, en fait, l'idée de elle soit dans la baignoire et regarde La Petite Sirène sur une vraie télé. Et surtout, ce qu'elle se dit, mais pourquoi c'est la sirène qui doit quitter le monde aquatique pour avoir maintenant perdre sa voix, risquer de perdre sa voix, ne plus avoir de jambes? Pourquoi c'est pas le prince qui, lui, prendrait le risque d'aller et se transformer en poisson? Elle a un parti, du coup, ça lui donne une dimension un petit peu féministe.
Vous avez bien sûr vu le dessin animé de Disney, Ariel?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, le personnage d'Ariel...
J'aimais bien la chanson chantée par, justement, je la cite dans le livre, par Henri Salvador.
Oui, qui était magnifique.
Sous l'océan, j'aime bien ce genre
et
de truc.
Et au départ, on pensait que cette sirène aurait le visage de Daryl Hannah, qui avait joué dans Splash, pas
ouais,
du tout. Oui,
bien sûr.
Elle a le visage d'une comédienne qui a joué dans Madame est servie, Alyssa Milano, et d'un mannequin, Sherry Stoner. Ce sont les deux qui ont fait le mélange d'Ariel aujourd'hui au cinéma.
Oui, je savais qu'il y avait un truc avec Alyssa Milano. La mienne, elle ressemblera plus à Clémence Poésie.
Vous parlez de Sous l'océan, on l'a sous la main naturellement.
Ah,
ici, on
sous
a
tout l'océan.
Génial. J'adore.
Sous l'océan.
J'adore Henri Salvador.
Il n'y a pas de gros.
Et vous vous rendez compte que les dernières années de sa vie, personne ne voulait pendant 2 ans de sa chanson Jardin d'hiver. Et
ah, bien sûr, magnifique. Benjamin Biolay, superbe. Ouais.
Et il se foutait de tout. Ça l'amusait beaucoup en même temps, Henri Salvador, à la fin de sa vie, de voir qu'il était redevenu quelqu'un d'important alors que pendant des années, on l'avait totalement méprisé. La télévision ne voulait plus lui, personne ne voulait plus en entendre parler.
Alors que moi, j'adore justement les chansons écrites par Vian. À l'époque de Henry Cording, le blues du dentiste, Rock'n'Roll Mops.
C'est la base du rock'n'roll, écrit
j'adore.
En 57. Et il y a quelqu'un aussi que vous adorez, qui a été dans un de vos albums, c'est Jean Rochefort.
Ah oui.
Et vous dites dans votre livre, Mathias Malzieu, que le poisson-fille, donc la sirène, est différent d'un poisson-chat qui ressemblerait à Jean Rochefort.
Oui, parce que quand même, il avait le sens de la moustache, le garçon.
Oui.
C'est-à-dire que je pense que sans on lui enlever sa moustache, c'était plus Jean Rochefort, c'était un autre Jean Rochefort. Et surtout, il avait ce flegme extraordinaire. Moi, je me rappelle quand il est venu enregistrer avec nous, on était tous complètement émerveillés. Hein. Moi, dès qu'il prononçait un mot dans le micro, j'étais comme ça, comme un enfant. Et d'ailleurs, Luc Besson m'avait dit hey, c'est une Rolls, hein, t'as le droit d'appuyer sur le champignon, tu peux lui dire des trucs quand même. C'est pas parce qu'il est génial que t'as pas. Tu dois lui dire des choses. Et c'était génial. Et quand il part, il me fait bon, alors, ça vous a plu? Oui, merci. Oh, vous dites ça, mais à peine j'aurai tourné les talons, vous allez appeler Jean-Pierre Mariel.
Voilà.
Et ça a été tout le temps comme ça. Il était drôle dans l'autodérision, dans le don. Il savait qu'on était client et qu'on était heureux au-delà même de juste de l'avoir là. Et en fait, il avait la politesse extrême de nous faire rire.
Et puis, il y a un mot dans votre livre, au dos de la couverture, Surprisier.
Oui.
C'est aussi le titre d'une exposition au Zénith jusqu'au mois de juin,
oui.
Mathias Malzieu.
Oui,
qu'est-ce que c'est, Surprisier? C'est encore un nouveau mot.
Surprisier, ça, pour le coup, c'est inventé. Et en fait, c'est la société secrète que j'ai inventée dans cette fameuse péniche tenue par la grand-mère du personnage principal où elle cachait des résistants pour leur remonter le moral et pour qu'ils puissent le remonter à d'autres gens. Elle les incitait à être créatifs. Et du coup, à se surprendre et à faire des surprises. Et notamment, au risque de leur vie, après le couvre-feu, ils allaient cacher des livres de partout dans Paris. Ils fabriquaient des objets, des jouets qui glissaient. Ils escalaient des façades, ils mettaient dans la cheminée des gens. Et j'adore l'idée, en fait, que dans des moments très, très durs, on laisse de la place au dérisoire et que la capacité d'émerveillement puisse encore avoir sa place. Ça me fait penser à l'idée d'un ciel étoilé. Par exemple, dans les films de science-fiction au début des années 50, on faisait des ciels étoilés, on mettait une toile noire et on faisait des trous dedans et on mettait de la lumière derrière. Et j'ai l'impression qu'en temps de guerre ou quand on traverse une guerre personnelle qu'on appelle un deuil, eh ben, on est recouvert d'un drap noir. Et c'est bien d'essayer de faire des petits trous dans ce truc et de mettre de la lumière dessous pour essayer de voir des ciels étoilés. Et pour moi, Surprisier, c'est un peu ça.
Et le ciel, il est bleu quand on lit ce livre qui s'appelle Une sirène à Paris chez Albin Michel. Merci de nous faire rêver. Je sais que ça va devenir un film. Et je conseille aussi à celles et ceux qui vous aiment ou qui ne vous connaissent pas, non seulement de découvrir le livre, mais de découvrir cette exposition au Zénith.
Merci beaucoup.
Jusqu'au mois de juin. Merci à vous d'avoir aussi bien évoqué votre parcours dans Les Clés d'une Vie. Vous revenez quand vous voulez ici, sur Sud Radio.
Avec grand plaisir. Vrai. Merci pour votre très très beau travail de préparation. Ça fait très plaisir.
Merci. En tout cas, dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres Clés d'une Vie. Merci. Bonne journée. À demain.